le 7-9.
Et soyez donc les bienvenus sur France Inter. Bonjour à vous. Nous sommes le vendredi 20 décembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les lignes commencent à bouger. L'UNSA, deuxième syndicat à la SNCF, appelle à une pause pour Noël. Et si le Premier ministre reste ferme sur l'instauration d'un âge d'équilibre, des avancées sont possibles. Les négociations reprendront en janvier. On va en parler dans le journal, Agnès, et à 8h20 avec le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il est notre invité ce matin. Le standard est ouvert. Vos questions au 01 45 24 7000.
Les Vélib et autres trottinettes en libre service victimes de leur succès et d'une utilisation abusive. Le Rassemblement national contraint de revoir ses ambitions à la baisse pour les municipales. Donald Trump qui veut en finir au plus vite dans la procédure en destitution. Et puis pour un sapin zéro déchet, rendez-vous à la fin du journal.
Et puis un invité exceptionnel ce matin à 7h50, le peintre Pierre Soulages, que nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer chez lui avec Léa Salamé à l'occasion de la rétrospective de ses œuvres au Musée du Louvre.
France Inter. Une pause pour les vacances de Noël. L'annonce hier soir du syndicat UNSA à la sortie de Matignon est-elle de nature à faire bouger les lignes? Le Premier ministre parle d'avancée et se dit ouvert à des aménagements. La CGT, de son côté, campe sur ses positions et appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 9 janvier. Bonjour Hélène Philippe.
Bonjour.
Alors on va faire le point avec vous ce matin sur ces négociations. D'abord, qu'est-ce qui a bougé?
Alors il y a quatre sujets. La pension minimale, d'abord, elle va sans doute dépasser les 1000 euros pour se rapprocher du SMIC. La retraite progressive sera proposée aux enseignants, au personnel hospitalier, aux cadres, au forfait également. Il y a un effort sur la pénibilité. Il faudrait travailler 110 nuits par an et plus 120 pour ouvrir des droits, mais pas de retour des quatre critères disparus en 2017. Et puis les transitions se négocient en ce moment dans les entreprises comme la RATP et à la SNCF. Elles ont visiblement convaincu l'UNSA.
Alors, le bureau fédéral de l'UNSA ferroviaire a décidé de prendre acte de ces avancées et d'appeler, indépendamment du reste du dossier, à une pause à la SNCF.
Le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure, qui annonce donc une trêve pour les fêtes. En cela, le gouvernement réussit à diviser les syndicats car la CGT cheminot, elle, reste mobilisée.
Alors Hélène, qu'est-ce qui coince encore?
Alors aucun syndicat n'est ressorti vraiment satisfait hier soir. Il n'y a aucune concession majeure. L'âge pivot reste un point dur pour la CFDT. Le Premier ministre y tient mais accepte de le moduler.
Les discussions que nous ouvrons avec les partenaires sociaux doivent justement nous permettre de personnaliser, d'individualiser davantage les trajectoires de départ à la retraite. Le dispositif de carrière longue permet de partir plus tôt. La reconnaissance de la pénibilité, la reconnaissance des situations de handicap, le développement de la retraite progressive, tout cela participera de la prise en compte des parcours et des carrières de chacun dans l'âge de départ à taux plein.
Est-ce un âge d'équilibre à la carte et cela va-t-il convaincre les réformistes? Les négociations vont reprendre début janvier.
Merci Hélène Filié. On ajoutera la déclaration d'Édouard Philippe sur les coupures d'électricité qui ont à nouveau eu lieu hier, condamnées avec la plus grande fermeté par le Premier ministre. Elles ont touché des milliers de foyers, 18 000 dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales et 12 000 dans l'Oise. Alors au 16e jour de grève dans les transports, la situation s'améliore un peu. Un TGV sur deux en circulation aujourd'hui pour les premiers départs en vacances. Un intercité sur quatre, un transilien sur quatre, quatre TER sur 10. Six lignes de métro restent fermées à Paris. Un RER sur deux aux heures de pointe et deux bus sur trois en circulation en théorie, puisque ce matin, deux dépôts de bus sont bloqués par des grévistes à Paris. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour.
Vous êtes vous en gare de Lyon ce matin et pour l'heure, ce n'est pas la cohue.
Oui, effectivement, ce matin, la gare de Lyon semble un peu endormie. À 6 heures, assez peu de trains à quai, assez peu de voyageurs et surtout pas de cohue. Même si un grand nombre de ceux que j'ai rencontrés ont vu leur train annulé, prévenu dans la semaine par mail ou par SMS. Mais chacun a pu effectivement se reporter sur un autre train, sans frais, en tout cas ceux qui sont venus en gare ce matin. Ce qui implique pour certains de partir deux jours plus tôt, comme ce couple rencontré tout à l'heure et qui prenait la direction des sports d'hiver, s'estimant heureux malgré tout de s'être vu proposer rapidement une solution de substitution. Pas de cohue donc, et des voyageurs plutôt détendu et pragmatique, heureux aussi de s'éloigner quelques jours de Paris et des difficultés quotidiennes dans les transports depuis deux semaines. Vous le disiez, aujourd'hui la SNCF annonce un TGV sur deux, quatre TER sur 10. Et pour les voyageurs qui partent en vacances, aujourd'hui, la grande incertitude réside dans le retour. Les annonces de la SNCF sur les trains circulant le jour et le lendemain de Noël sont très attendues aujourd'hui, même si le plus important, nous dit-on ici, c'était avant tout de pouvoir partir en vacances.
Merci Sébastien Sabiron, en direct de la gare de Lyon pour Inter avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Depuis le début de la grève en Ile-de-France, les moyens de circulation alternatifs sont très demandés. Vélo, trottinette, deux roues en libre-service, des trajets multipliés par trois. Mais, et c'est le revers de la médaille, affluence record dit aussi casse record. Un quart du parc serait inutilisable. Reportage à Paris à une borne de vélo partagée près de la gare d'Austerlitz où s'est rendue Julie Pietri.
À cette borne Vélib, 12 vélos semblent attendre sagement leur cavalier. Michael, 30 ans, 2 heures de pédalage chaque jour depuis le début de la grève, dépose sa bicyclette électrique. Mais bizarrement, il se met tout de suite à en chercher une autre.
Parce que l'assistance ne marchait pas. Ils sont plus lourds que les vélos non électriques. Donc sans assistance, c'était encore plus compliqué que sur un vélo normal.
Et le sketch commence.
Il n'y a plus de poignée, ça arrive souvent aussi.
Deuxième tentative, le voilà qui pédale dans le vide.
Il y a pas de chaîne.
Troisième vélo.
J'ai pas de frein.
Quatrième.
Celui-là n'a plus de changeur de vitesse.
Et enfin, au milieu de ceux qui sont clairement, visiblement hors service, sans selle ou sans chambre à air.
Ah oui, j'en ai enfin trouvé, hein, c'est bon.
Les Vélib ne sont pas les seuls concernés. Julien Chamussy, cofondateur de la toute jeune start-up Fluctuo, étudie les moyens de transport partagés au jour le jour.
Que ce soit les vélos partagés, les trottinettes partagées ou les scooters partagés, on a constaté que les flottes de véhicules disponibles avaient baissé de 25%. Parce qu'il y a de la casse matérielle, parce que la plupart sont des véhicules électriques. Il faut que tous les jours des équipes aillent changer les batteries, mais elles sont aussi, elles, impactées par les problèmes de trafic.
Certains véhicules sont également cachés, vélos ou trottinettes garés par exemple dans la cour privée d'un immeuble, pour être bien sûr de pouvoir les reprendre le lendemain, ce qui empêche là encore les équipes d'intervenir.
Et rappelons que Laurent Berger, le leader de la CFDT, sera tout à l'heure à 8h20 l'invité du grand entretien sur Inter.
Il est 7h07, Agnès, les députés disent oui à une loi sur l'écologie du quotidien.
Loi dite anti-gaspillage est censée lutter contre le tout jetable avec la fin des petits jouets en plastique dans les menus enfants, l'interdiction du plastique à usage unique dans les fast-foods et la fin de l'impression du ticket de caisse pour les petites sommes sauf demande express du client. Le texte donc adopté cette nuit à l'Assemblée prévoit aussi l'interdiction de destruction des produits d'hygiène et textiles et le principe du pollueur-payeur notamment dans le bâtiment. En revanche, le dispositif de recyclage des bouteilles en plastique a été reporté et sera discuté en commission mixte en janvier. La campagne pour les municipales à Paris, Cédric Villani, le candidat dissident de La République En Marche, accepte la main tendue de l'écologiste David Béillard. Il faut construire un rassemblement large allant de l'écologie sociale à la droite progressiste, dit Cédric Villani ce matin dans Le Parisien. Reste tout de même de nombreux obstacles à lever. Les deux hommes devraient se rencontrer prochainement. Quant au Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen a dû revoir ses ambitions à la baisse, car sur le terrain, Maxence Lambrecq, les choses ne se passent pas véritablement comme espéré.
De l'euphorie des européennes à la galère des municipales. 40, parfois 50% des voix recueillies en mai dernier. Et aujourd'hui, dans ces communes, à Mazingarbe, Vingles, Auchel, Vidauban, Sorgues, Bohain, Vermandois, quasiment aucune chance de victoire. D'abord, par manque de candidats sérieux. Nos cadres locaux sont des braves gens, admet un député européen. Pas forcément capables de diriger des villes. Et le vivier est d'autant plus restreint que la moitié des adhérents sont partis depuis 2017. Alors quand il n'y a personne de compétent ou que le parti veut garder la main, il parachute l'un de ses fidèles. Et là souvent ça coince, on ne se fait pas un nom, une réputation en un hiver à Lens, Calais, Maubeuge. Et les désillusions viennent aussi des équipes en place, plus solides que prévu, qui tiennent leur ville à Nice, Saint-Gilles, Alès, Draguignan, Douai. Le RN peut tout de même espérer l'emporter à Perpignan, à Carpentras dans le Vaucluse, Vauvert dans le Gard, Frontignan et Sète dans l'Hérault, la Trinité près de Nice, Denain dans le Nord et Bruay-la-Bussière notamment dans le Pas-de-Calais. Et ces conquêtes pourraient suffire à cacher l'éternel manque d'implantation locale du RN.
Et retrouvez sur franceinter.fr la carte des 50 communes dans le viseur de Marine Le Pen. Il n'y aura pas de procès pour l'homme soupçonné d'avoir tué Sarah Halimi il y a 2 ans à Paris. Kobili Traoré a été reconnu pénalement irresponsable. La famille de la victime envisage de se pourvoir en cassation. Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire ce soir pour fêter Noël avant l'heure avec 1 millier de soldats français sur la base de Port-Boué près d'Abidjan, au menu pâté en croûte et volaille des Landes aux Morilles, des plats préparés dans les cuisines de l'Elysée et transportés surgelés par avion. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Donald Trump voudrait en finir au plus vite. Je veux un procès immédiatement, a tweeté cette nuit le président américain, officiellement mis en accusation dans l'affaire ukrainienne, et il attend à présent d'être blanchi par les élus républicains républicain majoritaire au Sénat, mais les démocrates hésitent sur la suite à donner à cette procédure. Les explications de Grégory Phillips, le correspondant de France Inter aux États-Unis.
Y aura-t-il un procès en destitution de Donald Trump au Sénat américain? En tout cas, la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, hésite et elle n'a toujours pas transmis les deux chefs d'accusation qui visent officiellement le 45e président des États-Unis et qui ont débouché sur son impeachment. La présidente de la Chambre des représentants dit qu'elle ne le fera que si elle a des garanties sur le fait que ce procès sera juste.
On espère qu'il y aura un procès juste, on espère qu'ils respecteront la Constitution. Les pères fondateurs, quand ils ont rédigé ce texte, avaient bien imaginé qu'un jour au pouvoir, il pourrait y avoir un président malhonnête. Mais ils n'avaient sans doute pas conçu qu'il pouvait y avoir aussi, au même moment, un voyou à la tête du Sénat.
Or, c'est le Sénat et la Maison-Blanche qui fixeront les règles de ce procès en destitution. Plus personne n'est sûr qu'il aura lieu en janvier. Les démocrates pourraient même décider de ne jamais transmettre les chefs d'accusation et de se contenter de cet impeachment symbolique sans offrir à Trump le loisir d'être acquitté par un Sénat largement dominé par les républicains. Hier soir, sur Twitter, le président réclamait un procès immédiat, à moins, écrivait-il, que les démocrates ne préfèrent perdre par forfait. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Des vents violents balaient actuellement les Pyrénées et le Massif central avec des rafales à plus de 200 km/h. Plusieurs stations de ski des Pyrénées vont donc rester fermées aujourd'hui. Et puis dans les Alpes-Maritimes, tous les établissements scolaires sont fermés aujourd'hui. Les cours et les examens annulés dans les universités en raison des risques de pluie et d'inondations. Vigilance qui concerne également la Corse. En tout, 23 départements sont ce matin en alerte orange. Enfin, alerte de Greta Thunberg et de la lutte contre le réchauffement climatique. Mon beau sapin doit rester le roi des forêts et non pas se retrouver dans un appartement surchauffé, comme c'est le cas aujourd'hui pour des millions de conifères. Alors comment faire un sapin sans sapin? C'est un reportage de Valentin Boisset.
Robin a 30 ans, il habite à Paris et cette année Noël sera un peu différent dans son salon. Pour la première fois, il n'a pas acheté de sapin mais il l'a fabriqué lui-même.
Il est par là, dans la cheminée.
C'est un spécimen d'environ 80 cm des pieds à la tête.
C'est des livres de ma bibliothèque que j'ai empilés en forme de pyramide hexagonale, on va dire. Du coup, quand on allume les guirlandes, ça donne l'impression qu'on a un sapin de Noël.
Les livres du sapin, il les a tous lus, Bernard Werber, Karl Marx ou encore Stephen King. Et si Robin a fait son propre sapin, c'est selon lui parce qu'il pense à la planète.
On sait l'impact écologique qu'ont les cultures de sapins vendues en masse aux périodes des fêtes, donc on s'est dit qu'on allait faire un truc avec ce qu'on avait à la maison.
Chaque année, 5 millions de sapins sont coupés en France pour décorer les salons. Alors à la maison du zéro déchet, Julien Fèvre anime des ateliers gratuits pour apprendre à fabriquer son propre conifère sans matière végétale.
Il y a autant d'idées que d'épines sur un sapin, faire un sapin en palette, un sapin au mur, donc le dessiner ou le recréer avec une ficelle ou une guirlande électrique.
Et ça marche puisque les ateliers de Julien sont tous complets, avec en prime un best-seller, le sapin en rouleau de papier toilette.
Personnellement, je préfère le sapin en livre.
Merci beaucoup Agnès Souvirand.